Les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance ont toujours été, dans une tradition constante de l'Église, considérés comme des chemins de perfection. Et la vie religieuse permet incontestablement un vécu plus facile de ces conseils évangéliques. Mais alors, qu'en est-il pour les gens mariés ? Le mariage peut-il être un état de vie adéquat pour vivre ces conseils de Jésus? Et s'il ne l'est pas, comment le mariage peut-il alors être une voie de perfection chrétienne, c'est-à-dire une voie de sainteté? Pour éclairer cette question fondamentale, je vous propose cette pensée de Jean-Paul II dans sa théologie du corps. Les conseils évangéliques, dit-il, aident incontestablement à parvenir à une plus pleine charité. Aussi, quiconque y parvient atteint cette perfection qui jaillit de la charité, moyennant la fidélité à l'esprit de ses conseils. Et je vous propose de nous interroger successivement sur le vécu possible de chacun de ces conseils dans la vie conjugale. D'abord la pauvreté, ensuite la chasteté, et enfin l'obéissance. La vie religieuse est souvent considérée comme une voie privilégiée de sainteté dans la mesure où elle permet mieux que les autres états de vie de vivre avec une particulière radicalité les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. C'est là l'origine des trois vœux que prononcent les religieux et les religieuses. Et pour autant, le catéchisme de l'Église catholique, promulgué par Jean-Paul II, prend soin de préciser « Les conseils évangéliques sont dans leur multiplicité proposés à tout disciple du Christ. » Et encore un peu plus loin, « La distinction traditionnelle entre les commandements de Dieu et les conseils évangéliques s'établit par rapport à la charité, perfection de la vie chrétienne. Les préceptes sont donc destinés à écarter ce qui est incompatible avec la charité. Les conseils ont pour but d'écarter ce qui, même sans lui être contraire, peut constituer un empêchement au développement de la charité. Les conseils évangéliques manifestent la plénitude vivante de la charité, jamais satisfaite de ne pas donner davantage. Ils indiquent des voies plus directes, des moyens plus aisés, et sont à pratiquer selon la vocation de chacun, ce qui laisse entendre également de la part de ceux qui ont vocation au mariage. Et il faut reconnaître qu'une certaine tradition spirituelle a pu laisser penser que seule la vie religieuse permettait de vivre intégralement ces conseils évangéliques, et par conséquent qu'elle seule permettait d'accéder à la sainteté. Et l'on avait tendance à considérer que le mariage, même s'il ne l'interdisait pas absolument, a rarement été regardé comme une voie qui facilitait l'accès à la sainteté, au motif que cet état rendait difficile la pratique de ces mêmes conseils évangéliques. Finalement, est-ce si sûr ? Les époux, dans la mesure où ils s'engagent dans le mariage comme une réponse à une authentique vocation chrétienne, ne sont-ils pas appelés à pratiquer ces conseils évangéliques d'une manière qui leur est propre, mais qui n'est peut-être pas moins exigeante que celle des religieux? S'agissant donc d'abord de la pauvreté, si les religieuses et les religieuses s'engagent par leur vœu de pauvreté à ne rien posséder en propre, il est clair que les époux ne sont pas appelés à vivre, sauf exception particulière, et d'ailleurs qu'il faut discerner soigneusement, ne sont pas appelés à vivre cette radicalité de la pauvreté. Ils ont même le devoir de se constituer un patrimoine, comme résultat de leur activité de travail, de conserver et de valoriser dans toute la mesure du possible le patrimoine qu'ils ont reçu eux-mêmes de leurs parents pour à leur tour le transmettre à leurs enfants. Et la possession de ce patrimoine est justifiée par le devoir qu'ils ont d'assurer à leur famille une raisonnable sécurité. De même d'ailleurs que les religieux ont droit de posséder en commun ce qui est nécessaire pour permettre